VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Le pape François a reçu ce lundi matin au Vatican Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, pour une audience préparée avant les violences meurtrières ayant secoué son pays il y a une semaine. D'après l'AFP, le pape est apparu très concentré, peu souriant au début de ses 20 minutes d'entretien avec le président Kabila. Mais l'ambiance était légèrement plus détendue à la sortie lorsque les deux hommes ont pris congé en se serrant la main, cette fois devant les photographes. Dans l'est de la RDC, les populations du Nord Kivu disent non au cantonnement des ex-rebelles sud-soudanais fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar, qui se sont réfugiés en territoire congolais après leur défaite fin juillet et début août dernier dans leur pays d'origine. Les habitants de cette province de l'est du Congo-Kinshasa qui manifestent contre le projet gardent le meilleur souvenir des ADF et FDLR, deux rébellions étrangères accusées de crimes et de meurtres en RDC. Notre correspondant sur place, Charlie Kasereka, a tendu son micro à un de ses manifestants. On l'écoute.
Nous ne voulons pas que l'histoire puisse se répéter. Ça se répète toujours dans le Kivu. Loin de nous l'intention de ne pas être hospitalier envers ces gens-là. On est venu les soigner, mais nous pensons que nous n'avons pas les meilleurs hôpitaux ici, mais c'est mieux qu'on les amène dans d'autres pays, mais pas dans la RDC et surtout le Nord Kivu.
Un manifestant opposé au cantonnement des ex-rebelles sud-soudanais au Nord Kivu en RDC. Au Congo-Brazzaville, la majorité présidentielle propose à l'opposition de se retrouver autour des valeurs de la nation dans le cadre de la formule du vivre ensemble, plutôt qu'un simple dialogue en cette période de tension. Mais les opposants tiennent à un dialogue inclusif. En attendant, la guerre des mots agace plutôt la société civile. C'est le cas de la Commission Justice et Paix de l'Église catholique qui appelle au respect strict des lois. On écoute l'abbé Félicien Mavungu, coordonnateur de cette commission.
Notre combat comme Église, comme Commission Justice et Paix, c'est le respect de la légalité constitutionnelle. Donc, nous sommes pour le vivre ensemble, mais il faut bien qu'on échange, qu'on dialogue, mais pas de manière ponctuelle, mais de manière permanente. Pour garantir ce vivre ensemble, mais la meilleure garantie du vivre ensemble, c'est le respect des lois, le respect des constitutions, le respect de la légalité.
L'abbé Félicien Mavungu, coordonnateur de la Commission Justice et Paix de l'Église catholique au Congo-Brazzaville. Au Gabon, c'est toujours le calme depuis la validation par la Cour constitutionnelle de la victoire du président sortant Ali Bongo Ondimba. Pourtant, le 31 août, de violentes émeutes et des pillages avaient suivi la proclamation des résultats provisoires qui avaient donné la victoire au chef de l'État. Comment expliquer ce calme dans tout le pays? Idriss Fall a joint notre confrère Abel Mimongo du quotidien national L'Union à Libreville.
Il y a trois hypothèses qui concourent à ça. La première, c'est un fort dispositif militaire qui a été mis à Libreville et à l'intérieur du pays également, dans les principales villes du pays, qui aurait pu effectivement décourager toute tentative de manifestation violente. La seconde, c'est peut-être l'appel du candidat malheureux qui a demandé à ce que les populations restent chez elles. Cela sûrement en raison de ce qui s'était passé le 31 août dernier. Ne voulant plus avoir des morts dans sa conscience, il a demandé à ce que les gens restent chez soi. Et puis l'autre hypothèse, c'est peut-être les parents aussi qui ont demandé à leurs enfants de ne pas bouger parce que effectivement, c'est en se référant à ce qui s'est passé le 31 août dernier.
Le président Ali Bongo a lancé un appel au dialogue. Est-ce que vous pensez que son appel sera entendu par Jean-Ping?
Oh, c'est pas possible puisque la réaction ne s'est pas faite attendre. À la limite, le camp de l'opposition a trouvé cet appel comme étant de l'humour noir. Ils ont rigolé en se disant mais comment quelqu'un qui a perdu les élections peut demander aux gens de venir parler de quoi d'ailleurs. Ils ont considéré ça comme de l'humour noir, tout simplement.
Mais comment voyez-vous l'avenir? C'est-à-dire que Jean-Ping continue de dire que c'est lui, en fait, le président clairement élu.
L'avenir, c'est un avenir social et économique. Parce que en fait, au Gabon, il y a cette habitude qui consiste souvent à laisser les choses se dérouler telles qu'elles sont et puis voir le pouvoir être confronté à ses propres problèmes. On aura forcément des difficultés d'un point de vue social, sans compter les difficultés économiques. Socialement, ce sont les rentrées scolaires qui seront difficiles. Il y aura forcément des arrêts de travail, des manifestations ici et là. Et il va falloir combattre les brèches. Il y a des gens qui ont perdu des parents, des enfants, et tout cela va faire en sorte que le pays soit, on va dire, coupé en deux. Une.
Et on nous dit qu'il y a quand même des arrestations jusque-là.
Oui, oui, l'arrestation continue. Ce qui est plus grave, c'est que les gens débarquent chez vous à des heures tardives. Les gens qui ont été arrêtés, lorsqu'ils ont des gens qui les connaissent, ils sont tout de suite interpellés, portent sur eux des accusations, faisant état de ceux qui sont complices. Donc même les proches, aujourd'hui, vivent dans la psychose d'une arrestation, à tout moment.
Et Internet vient au compte-gouttes aussi, nous dit-on, surtout la nuit.
La situation ne s'est pas améliorée depuis le 31 août. On peut consulter Google de 6h du matin à 18h le soir. Et sans plus, les réseaux sociaux sont coupés. En tout cas, il n'y a rien sur Internet qui fasse que les choses soient revenues à la normale.
Notre confrère Abel Mimongo du quotidien national L'Union à Libreville au Gabon.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, double assassinat hier soir à Tombouctou dans le nord-est du pays. Notre correspondant sur place, Abdoulaye Traoré, nous en dit plus.
C'est un double assassinat qui s'est produit cette nuit aux environs de 18h à Tombouctou, dans le quartier d'Abaradjou situé à la porte du Sahara. Selon les témoins, les assaillants sont quatre à bord d'un pick-up qui ont ouvert le feu sur un garde de l'armée malienne devant sa porte. Un de ses frères aussi fuitier, ce dernier s'est réfugié à l'intérieur d'une chambre, mais n'a pas échappé à son destin. Au moins, ces 6 coups de feu ont été tirés. Selon des sources proches du garde-feu, lui-même aurait affirmé qu'il est menacé de mort. Toujours selon les mêmes sources, on lui reproche d'avoir collaboré avec la force Barkhane. L'armée a aussitôt bouclé la zone pour l'enquête balistique, mais pour l'instant, on ignore l'identité des assaillants. Mais tout laisse à croire que cet assassinat porte la marque des islamistes. Abdoulaye Traoré depuis Tombouctou pour VOA Afrique.
Maroc, les élections législatives du 7 octobre s'annoncent comme un face-à-face serré entre les islamistes du parti Justice et Développement, qui dirige la coalition gouvernementale depuis 2011, et le PAM, formation d'inspiration libérale, fondée en 2008 par un proche du roi Mohamed VI, Fouad Ali Elima. Pour endiguer ce qu'il nomme la marée conservatrice dans le pays, le flamboyant chef du PAM, le parti Authenticité et Modernité, principal rival des islamistes aux élections législatives, se pose en défenseur des femmes et de la parité. Avec 17% de femmes au Parlement, dont la présence est en grande partie garantie par un système de quotas, le Maroc est au 109e rang sur 187 pour le nombre de femmes dans ces assemblées, selon un classement de l'Union interparlementaire qui regroupe des parlements du monde entier. On passe à l'actualité ici aux États-Unis. Présidentielle américaine 2016, face à face entre la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump à la télévision ce soir pour leur premier débat en direct. À 6 semaines de l'élection du 8 novembre, les deux aspirants à la Maison-Blanche sont au coude à coude dans les sondages. Les détails avec Saloua Jafari.
Pour l'instant, aucun des deux candidats à la Maison-Blanche ne part favori. Ils sont à couteau tiré depuis un an, s'accusant de tous les maux, mais ne se sont jamais retrouvés en face à face. L'enjeu est de taille. C'est vrai que beaucoup d'électeurs ont déjà fait leur choix, mais les débats peuvent toutefois avoir un impact sur les indécis qui décideront du successeur de Barack Obama. Et cette année, ils sont plus nombreux qu'il y a 4 ans. 9% des électeurs selon un sondage NBC. Pour comprendre un peu l'importance de ce débat, je vous propose tout d'abord d'écouter Jeremy Meyer de George Mason University et Stephen Wayne, il est de Georgetown University.
Le débat établit la stature. Ça vous permet de vous tenir sur le même pied d'égalité avec quelqu'un de très connu.
Les débats présidentiels sont importants lorsque les candidats sont très proches dans les sondages. La plupart des gens qui suivent les débats espèrent que leur candidat favori fasse une bonne performance.
Clinton ou Trump, les deux candidats auront l'occasion de convaincre pendant les débats, il y en aura 3. Clinton est souvent perçu comme trop cérébral, Trump trop viscéral, impulsif. Le débat risque en tout cas d'être explosif.
Et pour terminer, le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des rebelles marxistes des FARC, Timoleon Jiménez Timochenko, signent aujourd'hui un accord de paix qui mettra fin à 52 ans d'une guerre civile qui a fait dans les 250 000 morts dans leur pays. Cet accord de paix mettra fin au plus long conflit civil d'Amérique latine. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.